RTL Info.
Le journal, Raphaël Girardin.
Bonsoir, la situation sanitaire devient critique dans le canton de Neuchâtel. Le RHNE a dépassé le cap symbolique des 100 lits occupés par des cas Covid. Nous ferons le point dans ce journal avec Claire Charmet, présidente du Collège des directions. Le Conseil fédéral étend les mesures pour lutter contre la pandémie. Dès demain, le port du masque sera obligatoire en extérieur dans les endroits fréquentés. Avec ces nouvelles mesures, le sport professionnel fait grise mine. Toutes les compétitions doivent désormais se dérouler à huis clos partout en Suisse. Demain, le temps sera généralement nuageux avec quelques averses le matin et quelques éclaircies l'après-midi. Les températures atteindront les 13 degrés en plaine et les 9 à 1000 mètres. Le nombre de patients atteints de Covid-19 franchit les portes du RHNE ne cesse d'augmenter. Ce mercredi, le cap symbolique des 100 lits occupés simultanément par des cas de coronavirus a été dépassé. Le réseau hospitalier neuchâtelois l'a annoncé en cette fin de journée. Les admissions s'accélèrent donc fortement, Jean-Paul Pitchy.
Oui, le terme est cette fois lâché. Le système hospitalier neuchâtelois s'approche de la saturation. Le risque est jugé élevé. Avec cette centaine d'hospitalisations, 50% du dispositif initial en lit de soins aigus du réseau est atteint. Pour en parler, en direct par téléphone, Claire Charmet, présidente du Collège des directions du RHNE. Bonsoir.
Bonsoir.
Claire Charmet, combien de patients l'hôpital cantonal peut-il accueillir au maximum ?
Alors, le RHNE s'est mis en ordre de marche pour accueillir jusqu'à 150 voire 200 patients Covid. On a également créé des lits supplémentaires pour accueillir les autres patients avec d'autres pathologies qui nécessitent une hospitalisation urgente.
Selon le rythme du nombre d'hospitalisations qui est élevé, qui ne cesse de s'accélérer, combien de jours allez-vous tenir ?
Alors, c'est difficile de qualifier cette durée en jours. On sait que le nombre de patients hospitalisés double en moins d'une semaine, entre 3 et 6 jours. Les capacités du RHNE ne sont pas extensibles à l'infini et donc indubitablement on arrivera à une saturation si la courbe épidémique ne fléchit pas. On a dans le canton un taux d'hospitalisation de presque 6 pour 100 000 habitants, alors que dans le reste de la Suisse, on est à 2 pour 100 000 habitants. On travaille aujourd'hui, depuis que le Conseil d'État a autorisé les réquisitions dans le privé, on travaille avec nos partenaires du privé, des discussions avaient été déjà engagées pour renforcer le dispositif du RHNE, mais également pour disposer de lits hors les murs.
Il y a une coordination romande entre les hôpitaux, mais aujourd'hui, on peut lire dans un rapport du Conseil d'État au Grand Conseil neuchâtelois que seuls les HUG seraient susceptibles d'accueillir des patients neuchâtelois. Il va falloir se tourner vers qui ensuite, lorsque les Genevois diront stop ?
Alors, la situation est compliquée dans toute la Suisse. Au RHN, nous avons 14 lits de soins intensifs, 10 lits de soins continus et une unité de ventilation non-invasive de 10 places pour prendre en charge les premiers patients. Au-delà de ces capacités, on recourt à la coordination. Si la coordination est saturée, on augmentera pour le RHNE de jusqu'à 24 puis 30 lits grâce à l'aide de recrutement externe ou de l'aide du privé. Au-delà de cette capacité, effectivement, ça reste problématique.
Augmenter le nombre de lits disponibles est donc nécessaire, mais est-ce que vous avez suffisamment de personnel pour s'occuper de tous ces malades ?
Alors, c'est effectivement difficile. Une première vague de réorganisation a eu lieu avec l'annulation des activités électives. On a redéployé une partie du personnel. On a plus d'une trentaine de médecins et bien davantage chez les soignants qui ont été réaffectés vers les unités qui avaient besoin de renfort pour pouvoir augmenter la capacité. Après, il faut effectivement qu'on travaille avec le privé et puis qu'on essaye de recruter par ailleurs.
Et est-ce qu'on peut imaginer également faire appel à l'armée, comme ça a été le cas au printemps dernier ?
Alors, on arrivera probablement à recourir à l'armée. On a déjà des discussions avec eux sur des fonctions logistiques, mais aussi sur des appuis en termes d'équipement.
Toutes les mesures prises par les politiciens visent à éviter le pire, soit de devoir choisir qui soigner et qui ne pas soigner. Est-ce que le risque d'arriver à cette situation devient réel pour le réseau hospitalier neuchâtelois ?
Alors, on ira jusqu'au bout du dispositif et de ce qu'on peut supporter sur la durée. Ensuite, il est certain que si la courbe ne s'infléchit pas et qu'on arrive au bout du dispositif et que le dispositif de coordination roman puis suisse est saturé, on arrivera à devoir trier les patients, effectivement.
Claire Charmet, présidente du Collège des directions du RHNE, merci d'avoir répondu à nos questions en direct et très belle soirée.
Merci, bonne soirée.
Et vous l'avez entendu, le système de santé de Neuchâtelois a augmenté ses capacités pour faire face à cette deuxième vague de coronavirus. Il s'appuie pour cela en partie sur les autres acteurs de la santé du canton. Les cliniques privées et les EMS peuvent désormais être mis à contribution si RHNE en a besoin. La décision a été prise par le Conseil d'État ce matin. Alexandre Aumont est directeur de région pour le groupe Swiss Medical Network qui gère les cliniques de la Providence et Montbrillant. Il dit ne pas être surpris par cette décision. On l'écoute.
Vu la situation sanitaire que traverse le canton de Neuchâtel, c'était quelque chose qui était à prévoir. C'est d'ailleurs quelque chose que nous avions prévu. On avait déjà pris quelques contacts avec RHNE dans cette optique-là, en voyant les chiffres de Covid qui continuent à monter. Au final, ça rend les choses plus claires, je pense, à la fois pour RHNE et pour nous. On s'est donc tout de suite mis à table pour parler de collaboration et de voir dans quelle mesure on pouvait prêter main forte à leurs équipes.
Vous savez déjà maintenant les conséquences financières que ça va avoir pour vous?
Non, on les calculera, je pense, après l'intervention. Tout dépendra évidemment du temps, de tout ce qui est mis à disposition vraiment de RHNE et évidemment de l'arrêt de l'activité standard que nous avons eue. On fera le compte après la crise. Le plus important maintenant, c'est de se concentrer sur passer cette deuxième vague le mieux possible.
Donc financièrement, vous, ça ne vous inquiète pas?
Bien sûr, ça m'inquiète, évidemment, parce que ces discussions-là sont toujours vives et difficiles. Mais aujourd'hui, disons qu'on va se concentrer sur la mise en place d'un dispositif sanitaire pour accueillir les patients qui sont malades et on s'attaquera aux problèmes financiers dans un deuxième temps.
Alexandre Aumont était au téléphone de Phileas Autier. Et les yeux étaient braqués sur Berne aujourd'hui dans l'attente des nouvelles mesures du Conseil fédéral. Elles sont nombreuses. Au menu, obligation du port du masque dans les rues fréquentées, fermeture des bars et restaurants dès 23h et restrictions drastiques pour les manifestations. Les précisions de notre correspondante à Berne, Hélène Yost.
Nous n'avons pas de temps à perdre. C'est avec ces mots que la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, a ouvert cette conférence de presse très attendue. Les mesures sont multiples, elles vont bouleverser le quotidien de nombre de Suisses et de Suissesses, mais elles rejoignent aussi celles déjà adoptées par certains cantons romands. Le masque donc sera obligatoire dans les rues fréquentées, mais aussi dans les écoles à partir du secondaire 2 ainsi qu'au travail. Les restaurants et bars devront, eux, fermer leurs portes de 23h à 6h du matin et ils ne pourront accueillir plus de 4 convives par table. Les rassemblements seront aussi très limités. Une jauge maximale de 50 personnes sera valable dès demain. Exception notable, les activités politiques comme les conseils communaux resteront autorisées. Dans le cadre privé, il sera interdit de réunir plus de 10 personnes et les activités sportives et culturelles non professionnelles n'ont pas été oubliées. Désormais, elles ne pourront pas regrouper plus de 15 personnes sous réserve du port du masque et du respect des distances. Ces mesures sont donc valable dès demain et ce jusqu'à nouvel avis. Notons aussi que les cantons sont libres d'imposer des règles plus strictes, quel que soit le domaine concerné. Les annonces faites la semaine dernière restent donc valables.
Et toujours dans ce paquet de mesures, les hautes écoles devront revenir à l'enseignement à distance dès la semaine prochaine. Le Conseil fédéral a également indiqué que des tests rapides seraient utilisés à partir de lundi. Ces dispositifs seront destinés aux personnes qui ont des symptômes mais ne sont pas considérés comme à risque. Fini les va-et-vient dans les guichets des offices régionaux de placement du canton de Neuchâtel. Ils sont fermés depuis aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre au moins. Pour limiter les risques de contamination au Covid-19, les collaborateurs des ORP passent complètement en télétravail. Les prestations sont maintenues à distance ou sur rendez-vous pour les quelques 6900 demandeurs d'emploi du canton. Le dispositif de télétravail est désormais rodé après son déploiement le printemps dernier et n'a jamais complètement cessé depuis. Valérie Giannoli, chef du service de l'emploi.
C'est une formule qu'on avait conservée depuis le retour à la normale. On avait conservé 2 jours de télétravail, 3 jours sur site. Et puis là, on est revenu à un télétravail complet pour la majeure partie des collaborateurs des ORP. C'est une formule qui avait très bien fonctionné lors du premier semi-confinement, au mois de mars. Le service de l'emploi était prêt pour pouvoir basculer dans ce modèle de travail. Ça avait donné de bons résultats, une majorité de demandeurs d'emploi avait plébiscité cette formule dans la mesure où, d'une part, ça les préservait aussi pour éviter, en évitant les déplacements, mais ça permettait aussi des contacts très étroits, réguliers, par téléphone, et puis c'était un soutien qui a été très apprécié.
Valérie Giannoni, chef du service de l'emploi, était au téléphone de Jean-Paul Picci. Et les Bugnonnais savanières prennent des mesures pour préparer l'hiver. Les remontées mécaniques suisses ont dicté une ordonnance avec des consignes de base et c'est ensuite aux stations d'affiner leur dispositif. Pour les installations du pied du chasseral, il faut rester flexible car la situation sanitaire et les restrictions évoluent presque quotidiennement. Mais le plan est prêt en l'état actuel. Les explications de Pierre Cuche, membre du conseil d'administration des Bugnonnais savanières.
On va faire des marquages au sol qui vont nous permettre d'avoir une distance et puis on va demander aux gens, s'ils sont trop proches des autres, de porter des masques. Nous aurons des masques à vendre à nos caisses. Alors vous allez me dire qu'il faut déjà atteindre la caisse pour avoir un masque. Mais aujourd'hui, les gens savent et se déplacent avec un masque. Après, je crois que pour le public, hormis les sanitaires, la salle de pique-nique et les files d'attente, on aura réglé la chose. Maintenant, ce qui nous inquiète un peu plus ou ce qui est un petit peu plus compliqué à mettre en place, c'est pour notre personnel. Alors, on va aussi mettre un certain nombre de choses à disposition, notamment des masques. On a fait faire des masques lavables qui sont aux normes de l'OFSP. D'un autre côté, du gel hydroalcoolique un peu partout. Puis évidemment, du savon et du papier pour se laver les mains partout où on aura des robinets. Là, c'est tout de la prévention. Effectivement, si on a des cas, eh bien, il faudra qu'on mette les gens de côté, qu'ils aillent se faire tester et puis qu'ils suivent le protocole standard.
Des propos recueillis par Lydiane Guena. Notez que la station fera appel à plus de personnel les jours de forte influence et que la capacité de la salle de pique-nique sera réduite de 100 à 50 personnes. Le référendum non aux suppressions irréfléchies des places de parc a été déposé aujourd'hui à la chancellerie de la ville de Neuchâtel. Environ 4200 signatures ont été recueillies alors qu'il en fallait 2500. Le comité référendaire s'oppose au réaménagement du clos de Serrières accepté par le conseil général le 14 septembre. La politique, c'est fini pour Marc Arletta, en tout cas pour le moment. Après n'avoir pas rempilé pour le conseil communal de la Chaux-de-Fonds, l'élu DC a envoyé dimanche sa démission du Grand Conseil Neuchâtelois avec effet immédiat. Il a retrouvé de l'embauche dans le génie civil pour le début de l'année prochaine et entend se consacrer à 100% à sa carrière professionnelle. Pierre Maudet, à nouveau dans la tourmente à Genève. Le Conseil d'État perd provisoirement le département du développement économique, le seul dicastère qui dépendait encore de lui. Il est transféré dès aujourd'hui à sa collègue Nathalie Fontanet. En cause, le rapport intermédiaire d'une experte indépendante qui enquête sur le fort taux d'absentéisme au sein de la direction générale du département. Les explications de la présidente du Conseil d'État genevois, Anne-Emery Thorasinte.
En réalité, quand il y a un taux d'absentéisme trop important dans un service ou dans un département, on contacte le directeur du service ou le chef de département et on propose ce type de démarche pour essayer de comprendre ce qui se passe et donc d'améliorer éventuellement le management ou l'organisation du service pour que ça se passe mieux. En l'occurrence, ce travail a été entamé avec tout à fait l'accord de M. Maudet. Et puis la surprise, c'est qu'après quelques jours et l'audition d'une bonne majorité des collaboratrices et collaborateurs de cette direction générale, l'experte a été tellement inquiète qu'elle a alerté le Conseil d'État en demandant des mesures d'urgence.
Et des propos recueillis par nos confrères de Radio Lac, l'audit va se poursuivre. Pierre Maudet a quant à lui désapprouvé cette destitution. Il s'exprimera demain devant la presse.
Sport.
Le sport professionnel, justement, doit désormais se jouer à huis clos en Suisse. Cela concerne principalement le football et le hockey sur glace. Les dirigeants des ligues font grise mine ce soir, Yann Esler.
Sans des aides publiques, les clubs seront en faillite. Ce discours a régulièrement été entendu ces dernières semaines. Il s'est renforcé en cette fin d'après-midi. La Swiss Football League estime que les clubs dépendent désormais urgemment des prêts sans intérêt du Conseil fédéral. Pour elle, si la situation persiste, d'autres mesures de soutien financier devront absolument être envisagées. La Swiss Football League, qui garantit également que la compétition va se poursuivre, cela concerne la Super League et bien sûr la Challenge League et Neuchâtel Xamax FCS. Du côté du hockey sur glace, la seule certitude, c'est que les championnats de National League et de Swiss League vont se poursuivre jusqu'à dimanche. Les dirigeants veulent se donner ainsi un peu de temps avant de se prononcer sur les conséquences des mesures annoncées cet après-midi. Ils évoquent tout de même un revers majeur en soulignant que les plans de protection adoptés depuis le début de la saison ont porté leurs fruits. Rappelons que le canton de Neuchâtel a lui décidé le huis clos depuis samedi passé.
Merci Yann. Et les fédérations de basketball et de volleyball ne se sont pas encore prononcées. Des prises de position sont attendues d'ici la fin de la semaine. Très belle soirée.
La météo avec l'Espace Group et de Boudry, l'interlocuteur unique pour votre habitat.
Nuages et quelques précipitations, c'est le menu de cette soirée. Il en sera de même pour la nuit prochaine. Temps encore nuageux demain avec quelques averses en matinée. Le ciel restera gris l'après-midi, mais le temps devrait rester sec. Il fera au maximum 13 degrés en plaine, 8 dans les montagnes neuchâteloises. Le soleil sera par contre de retour pour la fin de semaine.
La météo avec l'espace Groupe E, toute notre énergie au service de votre projet.